Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Isabelle avec vous pour cette dernière semaine en votre compagnie. On va espérer pouvoir passer du bon temps ensemble. Le compte à rebours est commencé. Et pour le Canadien aussi, on va suivre ça ce soir, bien sûr. J'ai pas mal de choses pour vous aujourd'hui à l'émission. On va vous donner l'occasion, les papas qui nous écoutent, de nous dire quel genre de père vous êtes. Vous avez entendu dans l'émission de mon collègue Paul Arcan, on expliquait un peu ce sondage léger qui posait la question à plus de 2000 pères partout au Canada. Puis les pères québécois sont très distincts. Ça nous étonne? Pas tant que ça. On va vous donner l'occasion tout à l'heure en deuxième heure d'émission de nous dire comment vous vous voyez comme père. Évidemment, la fin de semaine prochaine, c'est la fête des pères. On a également le témoignage d'une dame dont la tante a été victime d'une arnaque. Deux fois plutôt qu'une, d'ailleurs, une histoire assez rocambolesque. Écoutez ça tout à l'heure, après les nouvelles de 11h. Vous allez voir que de ce genre d'arnaque-là, personne n'est à l'abri de ça, en particulier quand les gens sont plus âgés. On peut devenir la cible de personnes malvenues et malveillantes. Mais en première heure d'émission, il fallait absolument parler de ça parce que le déconfinement va bon train au Québec. Ça fait tellement longtemps à Montréal, Laval, Québec, qu'on n'est pas sorti du rouge, qu'on était dans le rouge, qu'on nageait dans les mesures sanitaires restrictives, qu'on se souvient pas trop de qu'est-ce que ça fait de changer de couleur. Alors, en première entrevue, on va vous expliquer un peu ce qu'on a le droit de laisser tomber aujourd'hui, ce qu'on peut encore, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut toujours pas faire, toutefois, parce que vous avez été nombreux à m'écrire et à me dire, voyons, c'est mêlant. On est-tu obligé encore le 2 mètres? On entend dire qu'on n'est plus obligé le masque au travail. Qu'est-ce qu'il en est? On va voir tout ça, mais d'abord, j'aimerais vous rappeler ce que dit François Legault hier en point de presse.
On ouvre les valves. Est-ce qu'en ouvrant les valves, ça va augmenter le nombre de cas? Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais faut être prudent. La situation est complètement différente de celle de l'été passé à cause de la vaccination. Donc, on a des discussions avec la santé publique qui suit ça de très près, qui regarde la présence des variants. On voit que dans certains pays en Europe, il y a eu une augmentation du nombre de cas. Donc, je pense que le mot important, c'est graduellement. Mais moi, le plus vite possible, on pourra aller vers le vert puis vers la normalité, bien, le mieux ça sera. Mais en même temps, c'est pas vrai qu'on a fait tous ces efforts-là depuis un an et demi pour arrêter dans les dernières semaines puis prendre des risques qui sont pas responsables.
Et voilà, et je pense que c'est la phrase clé du premier ministre Legault. C'est pas vrai qu'on a fait tous ces efforts-là depuis un an et demi pour arrêter maintenant puis se donner trop de lousse, comme on pourrait dire. On va en discuter avec le docteur François Marquis, les chefs de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour François.
Bonjour.
Comment ça se passe ce matin dans ton hôpital?
Ben ce matin, là, c'est un. Moi, j'étais aux soins intensifs ce matin. C'est des soins intensifs réguliers. Il n'y a pas de COVID et c'est notre petite journée habituelle de soins intensifs.
Il n'y a pas de cas de COVID. Ça. Pas de cas de COVID dans ton.
Pas dans les soins. On en a eu un en fin de semaine qu'on a pu congédier à l'étage. Il en reste quelques-uns à l'étage, là, mais c'est tout à fait contrôlé chez nous. Là, c'est plus simple de dire qu'il n'y en a pas, surtout si on compare avec la quantité qu'on a eue dans les derniers mois.
Est-ce que ça fait combien de temps que tu peux dire ça enfin, là, ça, c'est la première fois, j'imagine, depuis le début, non?
Non, on avait eu l'été passé, à peu près au même moment, on a vraiment eu une période où on n'avait plus de COVID dans l'hôpital.
C'est vrai.
On n'en avait plus aussi aux soins intensifs. Sinon, il y en avait dans les dernières semaines, honnêtement, dans les dernières 2 semaines, je pense qu'on n'a jamais eu plus que 2 en même temps aux soins intensifs. Là. Donc, c'était très contrôlé dans l'Est. Là, ça roulait pas pire de ce côté-là.
Donc là, aujourd'hui, le Québec passe en jaune partout. Hein? On est vraiment sorti du rouge partout. Le déconfinement va bon train. C'est une position beaucoup plus confortable, François Marquis, que ce qu'on a déjà connu. Puis comme médecin, quand tu regardes ça, est-ce que tu te dis, bon, ben, c'est normal qu'on en arrive là, c'est normal qu'on relâche un peu?
À un moment donné, il faut relâcher. Là. Je pense qu'on a tout fait ça, justement, pas pour vivre dans un état perpétuel de zone rouge. La vaccination a été adoptée par la population. Les efforts continuent. C'est important que tout le monde ait ses 2 doses. Mais c'est vrai que c'est la vaccination qui fait le gros du travail. Et c'est important de faire attention et de poursuivre dans nos efforts pour un petit détail, c'est que présentement, notre système de santé n'est pas dans l'état, lui-même n'est pas dans une très bonne santé. Donc, oui pour le déconfinement, oui pour le retour à la normale de façon ordonnée et en gardant un œil sur ce qui se passe parce que, oui, notre population est vraiment bien vaccinée et on en est tous extrêmement fiers, mais en même temps, on a moins de marge de manœuvre dans le système de santé. S'il y avait une grosse éclosion ou une quatrième vague ou des choses comme ça, on part sur un système fragilisé. Ne soyons pas prophètes de malheur, mais gardons les deux yeux bien ouverts et soyons prêts à agir en conséquence.
Ouais. Je disais, bon, les gens sont un peu mélangés, on ne sait pas trop là, sur quel pied danser. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas connu un assouplissement de ces mesures sanitaires que là, aujourd'hui, les gens se demandent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux me permettre.
Aller sur le site web du gouvernement. Moi-même, il a fallu que j'aille vérifier ce matin. J'ai dû me faire poser la question par trois personnes en arrivant dans l'hôpital. Et c'est parce qu'il y a beaucoup... Bien, il y a beaucoup de changements. Je pense que quand on passe en zone jaune, ça ouvre beaucoup d'options, mais ça n'ouvre pas toutes les options. Et je pense là que ça prend 30 secondes d'aller voir sur le site. Il y a toute la liste. Ça nous permet de rafraîchir notre mémoire. Puis honnêtement, c'est ce que j'ai fait ce matin. Là. Il y a vraiment beaucoup de changements quand on passe en zone jaune.
Oui, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Entre autres, on sait que les rassemblements intérieurs vont désormais être permis pour les occupants aux deux familles, deux résidences privées.
On n'est pas dans le open house. Là.
Non, exactement, vraiment pas. Au niveau des restaurants, des bars, on va pouvoir, à la même table, accueillir les occupants de deux domiciles aussi, de deux bulles différentes. Évidemment, la vente d'alcool va cesser à 23 heures, ça ferme à minuit. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Au niveau du masque, François, ça... On peut laisser tomber le masque, on nous dit, si le 2 mètres est toujours respecté. C'est bien ça?
Oui, et c'est un vrai 2 mètres et pas un 2 mètres qui se rapproche parce que la bouteille est entre nous deux. C'est pas un 2 mètres qui se rapproche parce qu'on a bien du fun et que ça fait 3 heures. Il faut rester... Tu sais, c'est ces petites choses-là qui sont difficiles là parce que comme on réouvre beaucoup de choses, on se dit « ouais, mais là, bah, tant qu'à, c'est pas si grave que ça. » Alors que de tout ce qu'on a fait, de tout ce qui est extraordinairement efficace, oui, la vaccination, mais le 2 mètres, le port du masque, le lavage des mains et des surfaces, c'est ça qui contrôle tous les variants. T'sais, les gens s'inquiètent, est-ce que le variant est plus agressif, plus contagieux, moins contagieux? Si on continue de respecter... le 2 mètres, si on continue de faire attention, ce qui ne nous demande pas un gros effort parce que ça fait des mois qu'on le fait, c'est ça qui contrôle parfaitement tous les variants. Si le variant ne peut pas se rendre à quelqu'un ou si le virus ne peut pas se rendre à quelqu'un, cette personne-là ne court pas de risque. C'est ces petits détails-là qu'il faut se rappeler.
Mais on dirait qu'il y a des gens qui considèrent pas ces petits détails-là, comme tu viens de le dire. Quand on voit le méga party qui a eu lieu là, à Ganesh Attaqué en fin de semaine, où des gens sont allés, là, c'était pas des Mohawks, c'est vraiment des Blancs, là, des gens de l'extérieur du territoire qui sont allés là où se vend du cannabis. Il y avait une espèce de party cannabis. Bon, c'était ça a vraiment perturbé le coin, mais même les gens du coin, le maire d'Oka pas content, les Mohawks du coin sont pas contents non plus. Là.
Mais la réalité, ce que ça démontre, c'est que dès qu'il y a des substances qui altèrent la capacité de jugement, que ce soit le cannabis ou l'alcool, ou peut-être même vraiment beaucoup trop de joie, ça amène ce genre de débordement-là. Donc oui, les autorités locales ont un rôle à jouer. Chaque individu a un rôle à jouer. Si on s'en va à quelque part, participer à une activité qui peut être d'aller au restaurant, on sait qu'il va y avoir de l'alcool, il faut être juste doublement prudent.
Ouais.
Même principe, là, les gens font des prévisions en disant « bon là, il va y avoir de l'alcool, je vais pas conduire », ce qui est absolument parfait. Ça a été intégré dans notre quotidien. Il faut juste intégrer la même chose pour la COVID. Et l'autre partie, ben, c'est la santé publique qui, elle, doit faire enquête et retrouver s'il y a des cas. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des restaurants, les bars, tous ces endroits-là sont tenus de faire des registres. Les registres ne sont pas là pour surveiller les gens. Les registres sont là pour identifier les contacts advenant une éclosion, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir contenir le plus vite possible une éclosion pour éviter, comme notre premier ministre le dit, d'avoir à retourner en arrière et d'avoir l'impression qu'on a fait des sacrifices pour rien ou qu'on a réouvert trop vite.
OK. On va aller à la pause. On est en compagnie du docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Le Québec passe en zone jaune. Je vais vous demander à l'instant, qu'est-ce qui va vous rendre la vie plus facile dans l'assouplissement de ces règles sanitaires là, qui nous sont imposées depuis tellement longtemps? Ça fait tellement longtemps qu'on est dans le rouge, hein, dans la grande région de Montréal, qu'on se souvient plus trop, hein, puis qu'on est un peu mélangé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous éclairer un peu, si on le peut. Et bien sûr, ben dites-moi ce que ça va changer dans votre vie. C'est sûr que ça va nous faciliter la vie. C'est sûr que ça va nous alléger les journées. Ça va nous remettre un peu de bonheur aussi dans le cœur parce que, oh mon Dieu, le masque, moi, je vous avoue, le masque, c'est la grosse affaire pour moi. Parce que j'ai des problèmes respiratoires, je vous l'ai déjà raconté. Il y a plein de gens, plein d'auditeurs d'ailleurs comme moi. Dès que tu fais un peu d'effort avec le masque, c'est tellement là, difficile. La chaleur n'aide pas non plus. Alors là, le fait de pouvoir le laisser tomber tout en respectant le 2 mètres, parce que la distanciation, si on laisse tomber le masque, moi, j'ai aucun problème à garder la distance. Si c'est ça le deal, moi, j'ai aucun problème. Mais avouez que c'est quand même assez formidable. C'est surtout beaucoup d'optimisme aussi. Ça montre que ça s'en vient bien. Vous allez me dire aussi, c'est l'été. On a, comme le disait le docteur Marquis, on a vécu un peu ça l'été dernier. Et on se souvient ce qui nous a frappé à l'automne. Donc, on veut pas revenir là. On veut pas jouer au yo-yo, là. Puis dans 2-3 mois, avoir les mêmes genres de problèmes. Mais je pense qu'on a appris beaucoup aussi. Vous me direz comment vous voyez ça. Qu'est-ce qui vous rend la vie la plus facile désormais? Nous sommes en jaune. Et il y a des chanceux même en vert. En vert, ça veut dire quoi? Quelqu'un me dit, ça veut dire quoi être en zone verte? Ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que vous en avez plus de problèmes, en tout cas. Non, comme on le dit souvent, le risque zéro n'existe pas, là. Mais disons que quand tu es dans le vert, ça le dit, c'est go, hein? C'est comme un feu de circulation. En fait, là, c'est très simple quand on y pense, les couleurs. On vient tout de suite. Nos numéros, en avez-vous besoin? 514-790-9850. Et sans frais, partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Le Québec est en jaune, désormais ouvert. On a laissé tomber le rouge et c'est tant mieux. Qu'est-ce qui vous rend la vie le plus facile, Bruce? Bonjour.
Bonjour. C'est bon. Ben moi, ça me rend rien plus facile. Je voyais pas beaucoup de monde pendant la pandémie. Je suis vacciné. En fait, ce que je trouve le plus épatant, c'est que l'INSQ en août l'année passée disait qu'il y avait pas d'études concluantes qui disaient que les masques étaient efficaces. Puis là, le gouvernement, ils enlèvent. Puis tout le monde applaudit le gouvernement d'enlever quelque chose qui au départ était mitigé. Je veux dire, en fait, on a eu une incompétence du gouvernement, incompétence des systèmes de santé, même au niveau mondial. Puis là, aujourd'hui, ils nous redonnent des petits bananes puis des petits bonbons, puis tout le monde les applaudit. J'ai vraiment de la misère avec ça, là.
Donc, comment vous voyez ça, vous, par rapport à vous, vos agissements personnels, vos comportements? Allez-vous garder le masque, par exemple? Allez-vous quand même? Comment vous voyez ça?
Écoute, j'ai pas à le porter souvent, OK? Okay. Vraiment. Ouais. D'une façon générale, là, je veux dire, je suis toujours à peu près en mode sans être avec les gens. J'ai été avec des gens qui le portaient pas et moi aussi quelquefois.
Ouais.
Mais règle générale, j'ai respecté les règles, mais j'avais bien de la misère à les suivre parce que pour moi, elles n'étaient absolument pas purement scientifiques. Il y a eu beaucoup de décisions politiques du gouvernement qui décidaient de céder à des pressions. Alors ça, moi, quand c'est pas basé sur des faits ou du scientifique, au départ, ça me pue au nez.
Okay.
Même s'il y a des gens qui chiolaient, c'est pas une raison d'interdire des affaires parce que les gens sont pas contents.
Merci.
Fait que moi, un gouvernement qui fait ça en fonction des sondages, les décisions sont pas politiques.
Juste là-dessus, Bruce, si je peux me permettre, c'est quand même la santé publique qui a dicté la marche à suivre. Là. Et parfois, on l'a vu, il y avait une espèce de négo avec le gouvernement Legault, justement. C'était pas, enfin, on peut considérer que c'est politique, mais c'était aussi la santé publique là, qui dictait les règles. Donc, c'était d'abord et avant tout scientifique. Après, est-ce que la santé publique... ce débat-là, on l'a beaucoup entendu. Là. Merci beaucoup, Bruce. Je pense qu'aujourd'hui, un an et demi après, François Marquis, docteur Marquis toujours là, qu'est-ce que tu pourrais... comment veux-tu commenter là, sur le commentaire de Bruce? Parce qu'on l'entend beaucoup, puis on l'entend encore.
Ben, ce qui va arriver, hein, c'est normal. Il y a une fatigue de tout le monde là, face à ça. Et comme n'importe quoi dans la vie, là, il va y avoir un certain retour de balancier, il va y avoir une certaine chasse aux sorcières. Les gens, maintenant, quand le danger s'éloigne, là, tout d'un coup, on va vouloir trouver des coupables. Bon, une des choses qu'il faut se rappeler, c'est que quand on est en situation de pandémie, la recherche scientifique est extraordinaire et elle prend du temps. Et des fois, quand on est dans une situation extrêmement dangereuse où clairement il y a quelque chose qui au niveau mondial est en train de déraper, c'est normal que avant qu'on ait absolument toutes les réponses, on se base sur des observations et souvent les gens vont dire oui, mais vous aviez pas de preuves à tout. Si il n'y a pas des preuves, il n'y a pas non plus d'études scientifiques qui dit que sauter en bas d'un avion, pas de parachute, ça va vous tuer. Hein? L'étude scientifique n'a jamais été faite. Il y a quelque chose aussi qui s'appelle le gros bon sens. Mm. Et dans une situation de crise, on travaille avec le gros bon sens au fur et à mesure que les données scientifiques s'additionnent et nous permettent de parfaire notre prise en charge. Donc, je pense qu'il faut quand même se rappeler, qu'il fait quand même un an et plus, qu'au début, hein, quand on voyait ce qui se passait en Italie, il n'y a personne qui était prêt à attendre les études scientifiques qui allaient prendre un an ou deux pour voir si ça allait être efficace.
Ouais.
Et en tout cas, moi, mon opinion, c'est que le masque, la distanciation physique, la vaccination, tout ça a été excessivement efficace. Maintenant, on pourra s'astiner sur les validités de la preuve.
Là. Oui, mais il y a encore beaucoup de gens qui débattent de la validité de cette preuve. Puis peut-être qu'on a atteint un plateau, François, j'ai l'impression. Est-ce que c'est encore possible de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus? T'sais, j'ai Normand qui me dit là, que son beau-frère, il a dit hier, écoute, moi... j'ai pas besoin de me faire vacciner. Les autres se font vacciner pour moi, donc moi, garde, j'ai pas trop le temps, pas sûr que j'y aille. Fait qu'il a pas eu sa première dose encore, il est dans la quarantaine, tu sais. Normalement, il devrait être vacciné, tu sais.
C'est ça, c'est très dommage, il devrait être vacciné. Il y a un effort collectif, mais il faut pas oublier qu'on fait la vaccination aussi pour les bienfaits individuels. Et malheureusement, présentement, la dernière COVID qu'on a descendue aux soins intensifs, c'était quelqu'un dans la quarantaine qui n'était pas vacciné.
Il m'a interpellé, donc mon beau-frère, il me dit, donne-moi un argument, pourquoi je devrais me faire vacciner? On en est encore là.
Oui,
Normand dit, je savais pas trop quoi y répondre tellement j'étais décontenancé. Qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un?
Mais ça, là, on rentre dans la même catégorie de gens que ceux qui encore ne portent pas leur ceinture de sécurité ou des gens qui vont dire non, je suis capable de conduire, l'alcool n'a pas d'effet sur moi. Il y a des gens qui ont des comportements à risque qui sont comme gravés en dedans d'eux autres pour lesquels leur opinion ou leur vision d'une situation est impossible à changer. Malheureusement, ils sont très peu, mais ils existent, ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous arrivent quotidiennement aux soins intensifs, si on pense à tout le Québec, avec des histoires où on les regarde et on dit « Sérieux, mais comment vous avez pensé que ça pouvait être une bonne idée de faire ça? »
Ouais. Mais pour la ceinture de sécurité, à la rigueur, ça
n'en garde...
Oui, complètement. Puis il y en a plus qu'il y en avait il y a 10 ans qui n'apportent pas. Mais ce que j'allais dire là-dessus, Dr Marquis, c'est que ça engage ta responsabilité à la rigueur. On peut dire, c'est sûr que si tu as un accident... Dans le cas de la vaccination, c'est ça. Ça engage d'autres gens. Ce n'est pas que ton petit nombril. On a Anne qui...
Et juste avant de passer à elle, le problème aussi, c'est que souvent, ça engage les gens qu'on aime le plus.
Ben voilà.
Parce que c'est les gens qu'on voit et qui sont autour de nous.
Mm. Anne, bonjour.
Bonjour, madame. Qu'est-ce qui m'emmène le jaune, moi? Ce qui me fait plaisir?
Oui.
J'ai 94 ans. Et ça va faire un an, à la fin du mois, que j'ai pas vu ma petite-fille, j'en ai rien qu'une.
Oh, fait que donc...
Ça, c'est... Oui, madame. Puis moi, je peux féliciter les gens qui sont faites vacciner. C'est des braves. Parce que ça prenait un montant pour avoir un doigt à ce qu'on l'ouverture qu'on a dans le moment. Mm-hmm. Le mouf qui a parlé avant de moi, là, celui-là, là, bon, ce qui arrive, c'est pas lui. On vous félicitera pas ce garçon-là, parce que si ça avait été rien que de lui, là, tout serait fermé encore. Mm. À ceux-là qui n'ont pas fait le vaccin, je leur dis aujourd'hui, profitez de ce qu'on l'ouverture qu'on vous a faite. Vous êtes que des profiteurs. Mm. C'est tout ce que je peux vous dire, ça.
Ben, bravo, à 94 ans, vous en avez dedans, Anne. Ça fait plaisir d'entendre ça. Super. Caroline est avec nous. Bonjour, Caroline.
Bonjour. Moi, ce que ça change beaucoup, tu sais, si on parle beaucoup de positif de tout ça, la réalité, c'est que moi, mon père est en fin de vie. Le fait de changer de 25 personnes à 50 personnes pour les funéraires, c'est quelque chose qui était très important pour nous. C'est déjà pas beaucoup 50 personnes, mais on essaie de se contenter de ça. L'autre point est que ça fait déjà 11 jours que mon père est aux soins palliatifs. Et la réalité est que, compte tenu des mesures sanitaires, on était obligé de le mettre en isolation pour les 14 premiers jours, ce qui a été très difficile pour mon père parce que dans les premières journées, ben, il était plus conscient, il voulait aller dehors, il voulait passer du temps à l'extérieur, puis il ne pouvait pas malgré le fait qu'il était, malgré le fait qu'il était en fin de vie puis que son test était négatif, il n'avait pas le choix de rester dans sa chambre. Puis lui, pour lui, c'était une cellule. C'était lourd et tout ça. À partir de ce mercredi, il va pouvoir aller dehors. La réalité est que la fin de vie a fait qu'il est de moins en moins apte, il est de moins en moins content, il dort beaucoup, il est de plus en plus confus. Fait que c'est malheureux parce qu'on a...
Il en profitera pas, dans le fond, ça vous dire.
Il en profitera pas, tu sais, Puis, tu sais, c'est quoi de descendre, tu sais, orange à jaune, ils n'ont pas plus descendu le nombre de jours d'isolement à 10 jours, par exemple, ou 7 jours. Ça reste à 14 jours. Fait que toutes les gens qui sont en fin de vie actuellement se doivent de faire une isolation de 14 jours, chose qui est encore malheureuse, même si on change de couleur.
Merci Caroline, c'est tellement vrai ce que vous avez décrit. Beaucoup de familles québécoises l'ont vécu, malheureusement, c'est extrêmement difficile. Merci beaucoup. Jean est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour. Moi je disais que je vais continuer à me protéger quand même, là, même si on tombe en zone verte. Dans le sens, ce virus-là, c'est comme une grosse grippe qui tue un peu plus que les autres.
Vous êtes où? Là. Excusez-moi,
moi, je suis à Montréal. Moi, je suis à Montréal.
Montréal, c'est jaune, hein? C'est pas vert encore.
Oui, mais quand on va devenir vert, moi, je vais continuer à me protéger pareil, puis je vais me laver les mains, puis je vais continuer les mesures d'hygiène. C'est comme la grippe. Je vais pas l'attraper. Je vais avoir le vaccin. J'ai le vaccin. Je suis protégé, mais je peux transporter quand même le virus, puis le donner à d'autres personnes. Fait que je vais me laver les mains, puis je vais me protéger quand même aussi. C'est les mesures d'hygiène de base, comme pour la grippe.
Est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez adopté le masque pour de bon, Jean?
Ben, le masque, je vais le porter peut-être dans les zones à risque, là, mais pas vraiment. Je pense qu'un coup que je vais être vacciné, là, je pense que je risque d'être pas mal protégé.
Ouais.
Mais je vais quand même me laver les mains. Comme, tu sais, la grippe, là, moi j'ai le vaccin pour la grippe, mais est-ce qu'on peut attraper la grippe? Oui, on peut attraper la grippe. Si on ne se lave pas les mains, si on n'a pas des mesures d'hygiène de base, là. Fait que pour moi, c'est.
Mais ça, on n'avait pas besoin de la COVID pour savoir ça, hein?
Non, on n'avait pas besoin de la COVID, mais la COVID a renforcé peut-être chez certaines personnes qui ne se lavent pas les mains en sortant de la salle de bain, hein, peut-être renforcer un peu plus la notion de se laver les mains, puis c'est une petite hygiène de base. Là.
Tellement. Merci Jean, merci beaucoup.
Bonne journée. Au revoir.
Docteur Marquis, c'est vrai que, ça nous donne l'occasion de repasser une couche sur les choses de base. Hein. Le lavage de mains, sincèrement, qu'il soit là pour rester, tant mieux, personne ne va s'en plaindre, bien au contraire, ça aurait dû être déjà acquis. Sur la question du masque, puis on va parler après la pause avec un spécialiste du travail, parce que là, on va pouvoir retourner au travail. Dans les milieux de travail, le masque était de rigueur. Là, à partir d'aujourd'hui, en zone jaune, on peut laisser tomber le masque, même entre collègues, à partir du moment où il y a le 2 mètres. On a vu, François, la semaine dernière, entre autres, c'est beaucoup ressorti, j'en avais parlé dans mon émission, que dans les hôpitaux, certains travailleurs de la santé ne se faisaient pas vacciner. Est-ce que dans ton hôpital, comment ça se passe? La question du masque, est-ce que vous allez... Il y a comme deux questions, là, au niveau de la vaccination, puis ensuite au niveau des mesures sanitaires dans les hôpitaux.
Bien, au niveau de la vaccination, la bonne nouvelle, là, je sais que parmi les médecins, on est essentiellement à 100% vaccinés. Les quelques rares cas qui ne sont pas vaccinés, c'est qu'ils ont des problèmes de santé qui empêchent vraiment de recevoir le vaccin. Dans les autres membres du personnel, on a eu là, beaucoup de campagnes là, avec des résultats positifs. Il reste des gens qui ne veulent pas ou des gens, il faut s'en rappeler, il y a un nombre minime de personnes qui ne peuvent pas avoir le vaccin. Ces gens-là continuent d'être soumis au dépistage sérié. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est correct aussi. Nous, le défi du 2 mètres, c'est que dans des équipes complexes comme aux soins intensifs, c'est extrêmement difficile de garder 2 mètres en chaque personne. C'est ça n'arrive pas, là. Mm-hmm. Donc, pour nous, le masque va être là pour un certain moment. Mais pour faire un peu de pouce sur le dernier commentaire...
De Jean, oui. Mm-hmm.
Oui, une des choses extraordinaires que la COVID nous a montré, c'est qu'on peut parfaitement contrôler l'influenza, parce que l'influenza est moins contagieuse que la COVID. Mm. Et ce qu'on a vu dans les derniers mois, ça a été la disparition virtuelle à toute fin pratique de l'influenza. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand l'influenza va revenir cette année, si les gens se rappellent de se laver les mains, de faire une certaine distanciation, de porter volontairement le masque en lieu public, ça se peut qu'on ait... qu'on ait un meilleur contrôle de notre influenza. Ça sera à voir là à l'automne. Mais dans les hôpitaux, pour répondre spécifiquement à la question, je pense que les masques, on va les garder encore pour un petit temps. Mmh.
Merci beaucoup, Dr. François Marquis. Je ne sais pas si on va se reparler cette semaine, François, peut-être, peut-être pas. En tous les cas, je voulais te remercier parce que tu nous as beaucoup accompagnés, tu m'as beaucoup fait comprendre la chose aussi, tu m'as aidé. Je pense qu'on est tous arrivés comme journaliste, animateur, on est parti d'une page blanche, puis on s'est fait expliquer la COVID. Tu nous as aidés avec les auditeurs également. Je pense que beaucoup auraient le souhait de te remercier. Toi et des médecins, des épidémiologistes, des microbiologistes, vous nous avez permis d'avancer dans cette épidémie, dans cette pandémie, et d'en sortir un peu plus connaissant, avec beaucoup d'empathie d'ailleurs, François. Merci d'avoir été là, vraiment.
Ben merci beaucoup. C'est un plaisir partagé et aussi ben merci pour l'opportunité de pouvoir avoir une tribune unique là avec plein de gens super sympathiques. C'est une expérience très 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 positive pour moi.
Merci. Puis on continue de regarder de garde, bien sûr, 24/7.
Merci.
Docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je vous disais que un des assouplissements importants, c'est bien sûr au bureau, au travail. Vous savez que jusqu'à maintenant, en zone rouge, le télétravail était obligatoire pour 25 % des travailleurs qui pouvaient se rendre au bureau, mais les 75 % devaient travailler de la maison. Évidemment, bon, il y avait bien sûr des essentiels pour qui ça ne s'est jamais appliqué parce qu'ils étaient essentiels, mais donc là, ça change. Là, maintenant, on peut recommander encore le télétravail s'il y a lieu, mais disons qu'il va y avoir un mouvement pour vous encourager à revenir sérieusement au bureau. Aviez-vous l'intention de le faire? On s'en est parlé plusieurs fois, vous et moi, de l'impact de la pandémie sur nos habitudes et nos comportements au travail. On va voir avec notre spécialiste tout de suite après la pause ce qu'il en pense. Puis je vais vous demander, pensez-vous retourner au bureau, vous, prochainement, ou au travail? Le travail peut être ailleurs que le bureau. Ça peut être la shop, ça peut être le lieu où vous vous rendez habituellement et que vous n'avez pas fréquenté depuis des mois. Là, il va falloir repartir ça. Il va falloir revoir les collègues. Avez-vous un peu d'anxiété par rapport à ça? Comment vous vous sentez là-dessus? 514-790-9850. À tout de suite.